C'est vous, Philippe Loni, bonjour d'abord.
Bonjour Philippe Subercase,
et bonjour, bonjour Diego qui est là.
Bonjour Philippe.
Et qui est toujours fidèle à ce rendez-vous et qui écoute patiemment aussi des fois.
Et j'apprends apprenant. Beaucoup
et,
de choses.
Et apprenant, voilà, parce que la semaine dernière, on était dans des belles îles.
Ah ouais, elles étaient belles.
Elles étaient belles.
Alors vous allez voir que... On a un point commun, elles étaient belles. Ouais. Vous allez voir qu'il y a un point commun entre la semaine dernière et cette semaine, c'est cette notion d'enfermement. C'est-à-dire sur une île, quelque part,
oui.
On est enfermé.
Oui, mais ce sont des prisons dorées, presque.
Ah, mais vous savez...
Mais c'est une prison,
ça dépend. Pas, ouais. Celle c'est... qui était dans l'Arctique, oui. Prison dorée, je ne pense pas trop. Ouais. Hein. Agla-gla.
Oui, mais moi, je pensais toujours à ces belles îles.
Ah,
ouais. C'est carte postale.
Oui, ouais, mais vous savez, Philippe Subercase, quand je suis parti faire une retraite pour écrire un de mes romans...
Vous avez fait une retraite, vous?
Alors,
dans le silence, non, pas
non,
possible.
Alors si, non. Si, ah, si, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Et j'étais le seul à ne pas être repris, Philippe Subercase.
Et vous n'avez pas tenu, vous n'avez pas tenu.
Si, si, j'ai tenu. Alors, tenez-vous bien, c'était au monastère des îles de Lérins, donc sur l'île Saint-Honorat, qui est au large de Cannes, à 20 minutes. L'île fait 1,5 km par, allez, on va dire 400 mètres de large, 400-500 mètres de large. Moi, je suis arrivé pour une semaine. Et quand vous arrivez, le frère hospitalier dit aux gens, vous êtes là pour combien de temps? Une semaine. Je tiens à vous le dire, peut-être que vous ne tiendrez pas une semaine. Et au bout de deux jours, j'ai vu des gens repartir. Parce que le silence, mais surtout le fait d'être sur une île où il n'y a rien. Où, a priori, il n'y a rien. Et en fait, il y a plein de choses sur l'île. Mais encore faut-il arriver à les voir. Il y a des gens qui, au bout de deux jours, devenaient fous, ils repartaient. Voilà. Et c'est un enfermement. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ce dont on va parler, eh bien, ça a un rapport. Alors, je voulais vous demander d'ailleurs, est-ce que vous avez entendu parler de cette information? Il y a quelques semaines, il y a un détenu qui s'est évadé de la prison de Mozac, dans le Périgord.
Oui, mais qui a été repris.
Qui a été repris, voilà.
Vers Cannes, je crois, non?
Voilà, ouais, tout ouais. À fait. Alors, il faut savoir, cette prison, moi je l'ai longée l'été dernier avec un de mes potes, très tôt le matin, en arpentant le GR6, le chemin de grande randonnée schiste, qui part d'Arcachon et qui arrive dans les Alpes de Haute-Provence. Et ce chemin de randonnée, donc, qui relie la France d'ouest en est, il longe la prison de Mozac. En fait, on passe au milieu, il y a un établissement d'un côté, un établissement de l'autre. Ce qui nous avait étonnés à l'époque, c'était le silence. C'était le silence, très tôt le matin. On était persuadés qu'on entendrait peut-être des cris, etc. Tout rien du tout, le silence. Et nous, on s'imaginait entendre des voix. Et quelques jours plus tard, il se trouve, comme un hasard surprenant, je me trouvais dans une librairie, alors, qui est une librairie qui est à Aubusson, dans la Creuse, pour acheter donc un ouvrage dont je vais parler aujourd'hui et qui s'intitule « Souvenirs en cavale » avec ce sous-titre « Carnet de rencontres à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc » et il est publié donc à la boîte à bulles. Alors la boîte à bulles, on va le préciser, hein, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée et le roman graphique. Je vous rappelle que les romans graphiques, ça fait aussi partie des romans qu'aime présenter Diego Arrabal. Mmh. Hein, il a déjà présenté des romans graphiques, vous vous souvenez notamment sur la guerre...
oui, sur la guerre d'Espagne.
Sur la guerre d'Espagne. Je vous signale que c'est moi qui l'ai d'ailleurs toujours, Diego Arrabal, si jamais vous le cherchez.
Non, je ne le cherche pas. J'en ai un de vous aussi. Donc,
voilà.
Enfin, de vous qui...
Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture qui dit tout de ce livre aussi surprenant qu'étonnant. En 2017, Gildas Chasseboeuf réalisait un atelier dans la prison de Saint-Brieuc sur la thématique du souvenir. Il a saisi cette occasion pour recueillir la parole de toutes celles et ceux qui vivent dans cette prison ou gravitent autour pour la consigner sous forme de carnet de voyage. En prison, le rôle du souvenir s'avère essentiel. Le corps, contraint dans un espace clos, conduit l'esprit à compenser, rêver, voyager vers l'avenir ou les plaisirs du passé. Des paroles de détenus à celles du personnel pénitentiaire, Gildas Chasseboeuf brosse le portrait animé d'un milieu terne où le temps, figé, façonne parfois des horizons inattendus. Je m'étais posé une question, Philippe Subercase, voyez-vous, ça aurait été presque de se dire est-ce qu'il aurait été possible un jour d'organiser une émission littéraire à la maison d'arrêt de Tarbes, voyez.
Pourquoi pas.
Avec, effectivement, vous savez, on parlait il y a quelques semaines de cela, de sortir à l'extérieur, mmh. Avec des détenus. Eh bien, vous allez voir que je vais vous lire des extraits de ce roman graphique, Souvenirs en cavale, donc carnet de rencontres à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Vous allez voir que ce roman, il est construit de la manière suivante. Un souvenir est raconté par un détenu ou un personnel pénitentiaire. C'est ça qui est très intéressant. Et il est ensuite interviewé par l'auteur. Donc c'est un montage passionnant qui permet de découvrir que derrière les hommes, quels qu'ils soient, détenus pénitentiaires ou personnel pénitentiaire, il y a des êtres. Alors, je vais vous lire un extrait. On commence par un détenu, c'est en page 25 de ce livre. Ça s'intitule « Amat, détenu » et le titre de l'interview, c'est « Je me souviens ». Je me souviens de la cuisine de maman. Cette cuisine dont les effluves me titillaient les narines et stimulaient mes papilles dès que je franchissais le seuil de la porte à mon retour d'école. Je me souviens surtout de mes plats préférés, en l'occurrence du poulet yassa et du thieboudienne ou rio au poisson, qui est d'ailleurs le plat de référence au Sénégal, mon pays natal. Le poulet yassa consiste en un plat à base de riz blanc, semblable au ritaï, accompagné d'une sauce aux oignons, caramélisée, agrémentée de citron et d'autres condiments. Cette sauce nécessite de faire revenir des oignons émincés dans de l'huile chaude jusqu'à obtention de leur caramélisation sans pour autant les laisser cramer. Une fois les oignons caramélisés, maman y ajoutait de l'eau afin d'obtenir une sauce dans laquelle elle faisait mijoter son poulet découpé au préalable, en plus du sel et des épices, du laurier, quelques gouttes de vinaigre et des cubes magiques dont elle seule avait le secret. Une fois que la texture attendue était obtenue, elle y ajoutait son jus de citron pour donner au plat son goût final si particulier. Qu'il était bon, le poulet yassa de maman. J'en salive juste en y repensant. Je ne l'ai pas précisé, Amat, c'était un détenu de la prison, de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Parce que vous savez que dans les maisons d'arrêt, ce sont des peines courtes, hein, contrairement donc effectivement...
Ou des préventives.
Voilà, ou des préventives, voilà, à d'autres choses. Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait, Diego Arabal et Philippe Subercase?
Ça m'a fait saliver.
Ça vous a fait saliver?
Oui, bah pour quelqu'un qui aime...
Philippe Subercase?
Oui, pareil, oui, tout à fait.
Vous voyez, et ça, c'est un détenu, voilà. Et là, je vais vous lire maintenant, versus un peu un extrait d'un personnel pénitentiaire. C'est le directeur de la maison pénitentiaire donc, de Saint-Brieuc qui évoque, pour Gildas Chassebeuf, donc, qui a écrit ce livre « Souvenir en cavale », ce roman graphique « Souvenir en cavale », carnet de rencontres à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, qui évoque... Vous allez voir l'un de ses souvenirs d'enfance qui est à des milliers de lieues de la prison dans laquelle il travaille. Ça s'intitule Une ferme. Elle s'appelait Mignonne et lui Rapide. Ils étaient parfaits pour labourer ou hercer et bien appareillés pour l'attelage. C'étaient des chevaux de trait, des percherons aux pieds puissants et aux larges sabots, un hongre et une jument. Mes grands-parents les utilisaient dans leur ferme dans la Sarthe, une ferme sans tracteur, comme il y en existait encore après-guerre. Mon frère et moi, on y passait toutes nos vacances, l'été bien sûr, mais aussi la Toussaint, Noël et Pâques, et tous nos samedis et dimanches. On ne connaissait pas le terme grasse matinée. Nous étions levés à l'aube pour participer aux travaux de la ferme. Mener les vaches au pré, nourrir les cochons, buter les patates, mettre de l'eau aux génisses, et puis il y avait la traite, à la main, et aussi la basse cour. Régulièrement, je saignais, je plumais, je vidais le poulet qui finissait dans la cocotte. L'été était chaud et généreux. Au verger, la récolte était croquée, vendue ou finissait en confiture dont on se régalait le reste de l'année. Et les moissons. Les moissons mobilisaient une bonne vingtaine de personnes. Après la besogne, tout le monde s'attablait autour de planches posées sur des tréteaux pour un copieux repas fait de cidre et de cochonaille. Le café était arrosé de gnôles maison. On tuait le cochon qu'on transformait en lard, en pâté, en saucisse. À l'automne, on pressait les pommes. Le jus gonflait les fûts et fermentait lentement. L'hiver, quelquefois, un peu de neige blanchissait les toits. Nos grands-parents nous ont transmis tout ça. Et ma grand-mère nous a appris la cuisine, le repassage et même la couture. Bien sûr, c'était pas franchement des vacances, mais c'était pas le bagne non plus. Et même si parfois mon frère et moi, il faut bien l'avouer, on en avait un peu marre, je garde de cette époque le souvenir d'un vécu enrichissant dans une campagne humble et authentique. Voilà quelques images d'un petit monde perdu. Un monde presque oublié où l'on a pu s'épanouir et grandir. Quand on a eu 14 ou 15 ans, ils se sont retrouvés à la retraite. Alors, terminez les semailles, les blés mûrs, le cidre à la barrique, Adieu, mignonne. Adieu, rapide. Ça a été la perte de l'enfance. La dernière page d'un chapitre trop court. Après le départ du grand-père, la grand-mère s'est retrouvée à l'hôpital. Puis elle est partie à son tour. Alors la maison a été vendue. Je n'y suis jamais retourné. Voilà un peu dans ce texte que Pierre, le directeur de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc-Dresse, en employant, hein, vous l'avez vu le mot, mais ce n'était pas le bagne non plus, alors même qu'ils n'avaient pas le choix, hein, ils étaient enfermés, on les mettait là, on leur disait bon. Et même si par moments ils le disent, c'était pas rigolo, aujourd'hui avec le recul, ils se rendent compte que ce qui pouvait avoir l'air par moments d'un enfermement, en fait a été effectivement ce qui les a construits. Et cet homme, qui est directeur de la maison de Saint-Brieuc, le premier souvenir qu'il a tenu à raconter à Gildas de Chassebeuf, ça a été ce souvenir-là. Voyez. Et ce que je trouve remarquable dans ce livre, alors qui est agrémenté, hein, comme c'est un roman graphique de tout un tas de dessins, par moments les personnages sont dessinés, cet aspect-là. Et derrière, je vous disais, il y a juste l'interview, donc il donne le nom, Pierre Lemay, et je vous lis juste quelques passages de l'interview qu'il en fait. Gildas Chassebeuf, vous êtes le directeur de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Quelles sont les raisons principales des peines effectuées ici? Pierre Lemay, essentiellement l'alcool. Bien sûr, l'alcool n'est pas illégal, mais c'est tout ce qui en découle. La conduite en état d'ébriété, les outrages sur la voie publique, aux forces de l'ordre, les violences conjugales, etc. Il y a aussi les stupéfiants et la violence, mais elles découlent généralement de l'alcool. Ça représente une grande proportion des raisons d'enfermement ici. Voilà, donc il explique un peu, hein, je ne vais pas tout lire, ce qui fait son quotidien, avec effectivement tout un tas de dessins.
Donc, ils sont magnifiques.
Voilà, qui sont magnifiques, hein, qu'il dessine. Voilà.
Alors c'est Gildas Chassebeuf qui dessine.
Oui, d'accord. Oui, c'est lui qui dessine,
il fait les interviews, il fait les textes et il dessine.
Et il a fait ça, vous voyez, à l'issue, donc ça lui a été proposé, hein, il le précise au départ. Alors, la préface qui est faite par Gérard Hallé, elle s'intitule « Libre entre quatre murs ». Et je trouve que voilà, c'est ce qui ouvre le livre, hein, c'est un peu le presque l'incipit, hein, de ce livre. Et il écrit sur Gildas Chassebeuf. Pour l'employé de l'abattoir comme pour la boulangère ou le garde mobile, Gildas Chassebeuf est l'archétype du mec libre, voire trop libre. Gildas dessine, Gildas joue de la musique. Il pourrait se contenter de se la couler douce avec ses potes dans ses rades favoris du côté de Saint-Brieuc, mais Gildas voyage, il explore. Il s'embarque pour un cargo, pour un voyage monotone au long cours, se faufile derrière le grillage de la zone interdite à Tchernobyl, ou trace à moto à travers la Sibérie jusqu'en Mongolie. C'était une bande dessinée, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait présentée sur Tchernobyl. Un printemps à Tchernobyl. Il veut voir le monde qui se cache derrière nos murs de préjugés. Et maintenant, lui, le mec libre, le voilà entre quatre murs, en zonzon. Il y rencontre nos semblables, nos frères et nos sœurs qui ont dérapé. Et il sait les mille risques de glissade que nous réserve la vie. Il sait qu'on y échappe souvent par chance ou par miracle, parce que quelqu'un nous a prévenu du danger ou nous a tendu la main au bon moment. Mais en tôle, une fois la porte refermée, l'imaginaire ne peut plus se nourrir de la nouveauté. Tout s'éloigne, tout s'efface dans la grisaille. La crête des vagues, le vent des blés, le sourire croisé au coin de la rue, les premières fleurs du printemps. Alors Gildas convoque le souvenir doux, amer, et lui redonne vie par le dessin. Il sait que si la peine empêche l'esprit du prisonnier de s'évader, elle brisera en lui toute possibilité de se reconstruire quand il sortira. Pouvoir imaginer, se souvenir, mais aussi oublier pour se projeter, que son nom soit détenu, surveillant, toubib ou animateur, que l'on soit en liberté ou incarcéré, c'est cela qui fait de nous des êtres humains. Dans ces moments de lecture, d'écriture, de danse, de théâtre ou de dessin en prison, la vie qui était restée dehors, interdite de passer la porte et les barreaux, peut entrer par la fenêtre pour allumer une petite lumière dans les yeux de celles et ceux qui semblaient condamnés à l'obscurité. Le berger qui a fui la guerre au Soudan revit ses rêves d'enfant. Le géorgien revoit les collines, les vignes et le raisin noir du pays natal. Là, le berger, comme le géorgien, ce sont des prisonniers qu'il a rencontrés en prison. Des gens qui ont fui, des migrants, et qui se sont retrouvés là. Le breton retrouve le goût des patates au lard de sa grand-mère. Un lien se tisse à nouveau entre hier et aujourd'hui et demain. Un lien qui libère. Voilà. C'est vraiment un livre absolument formidable. Et le début du roman commence par « Les souvenirs n'ont ni murs ni frontières, ils nourrissent le temps trop long ». Et c'est en fait le fil rouge de toute cette interview, c'est de dire qu'en prison, on a beaucoup de temps, mais on a très peu d'espace. C'est inversement proportionnel. Et en fait, ce qu'il a tenté de faire avec cela, c'est de décrire effectivement le quotidien de ces personnes. Je vais vous en décrire un autre, c'est celui de Paul, qui est infirmier psy à la maison d'arrêt. J'ai passé une année en Guyane avec ma femme, à Maripasoula. Là-bas, il y avait quelques habitations et bâtiments sur les bords du fleuve Maroni à 3 jours de pirogue de Cayenne. En tant qu'infirmier, j'étais responsable d'un dispensaire de brousse, le seul à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les habitants étaient des descendants d'esclaves qui, fuyant le Brésil, venaient trouver la liberté en Guyane. Ils parlent un dialecte appelé Taki-Taki. Il y a aussi des Indiens, des Wayana. Ces deux peuples mènent une vie communautaire, une vie de partage. Il y a beaucoup de familles nombreuses, souvent plus de 10 enfants chez les Noirs et 3 ou 4 chez les Indiennes. Il n'y a pas de réseau potable, il n'y a pas de touristes. Voyez les souvenirs qui sont évoqués par ces personnes qui sont enfermées en prison. C'est des souvenirs effectivement qui leur permettent de s'échapper.
Et vraiment, là, pendant que vous tournez les pages et que vous lisez, on voit les dessins, ils sont superbes.
Ah, qui sont absolument superbes et qui font voyager. Il y a un trait particulier, Gildas Chassebeuf, vraiment, c'est quelque chose de formidable. Et je vais vous lire un dernier témoignage, c'est celui de Cyril, qui est médiateur socioculturel, donc à la prison, à la maison d'arrêt. Et vous allez voir le lien qu'il fait entre le souvenir qu'il raconte et le métier qu'il vit aujourd'hui. J'ai vécu 3 années en Amérique du Sud, 1 an au Pérou et 2 ans en Bolivie. Je travaillais avec des enfants et des adolescents des rues à Ayacucho, une ville de 100 000 habitants entre Cuzco et Lima. J'ai appris l'espagnol sur place. Je voulais voyager en étant en contact avec la population. Au Pérou, je vivais chez une famille et en appartement en Bolivie. J'ai été embauché dans un centre éducatif avec des locaux et des volontaires européens. La 2e année, j'étais coordonnateur. J'ai pu visiter l'Amérique du Sud, de la forêt amazonienne jusqu'à la Patagonie, et les paysages grandioses, énormes, époustouflants de ce continent. J'ai appris la problématique des enfants des rues et les façons de bosser du pays. La base, donner un peu d'amour et d'intérêt à des jeunes qui n'ont pas eu le temps d'avoir une enfance. Ils doivent travailler très tôt pour aider leur famille. Souvent, ils étaient issus de populations déracinées de leur milieu rural. Le père bossait dur sur un chantier la semaine et claquait tout en alcool le week-end. Là-bas, on faisait de la peinture, du théâtre, de l'aide pédagogique, des jeux, du suivi scolaire. J'ai fait venir un pote infirmier et on a monté une antenne infirmière pour suivre la santé psychique des jeunes, la santé physique pardon, des jeunes. Le lien avec mon emploi actuel en animation en relation est que je contribue à développer le mieux-être et l'épanouissement personnel au sein de populations en difficulté à travers la culture, l'échange, la rencontre. Voilà. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé des témoignages absolument extraordinaires de gens qui ont une vie avant la prison et qui aujourd'hui, voilà, continuent effectivement ce lien. Et voilà, moi, je suis absolument, absolument formidable. Et juste pour terminer, je vous lis le témoignage de Vitali, qui est un détenu dont je vous parlais tout à l'heure, qui est géorgien. Voilà. Entre 15 et 18 ans, j'ai été 3 fois champion de mon pays, la Géorgie. Là-bas, je vivais à Tbilissi, la capitale. J'étais lutteur. Entre 15 et 18 ans, j'ai été 3 fois champion. Je n'avais qu'un seul diplôme et une médaille, rien d'autre. Il n'y avait pas de travail et rien à manger. Il y avait de l'eau et de l'électricité entre 21h et minuit, c'est tout. J'ai fait quelques bêtises et je suis tombé 2 ou 3 fois. Alors j'ai décidé de partir en Europe, illégalement, sans visa, pour changer de vie et aider ma famille. De Géorgie, j'ai pris le train pour traverser le sud-ouest de la Russie et me rendre en Ukraine, où il n'y avait pas besoin de visa, puis j'ai franchi la frontière polonaise qui marque la frontière de l'Union européenne, de nuit, à travers la forêt, seul. J'ai ensuite marché jusqu'à Lublin, où j'ai pris un autocar pour Varsovie. Je parlais un peu le russe, et j'avais en poche environ 400 dollars, de quoi me débrouiller. À Varsovie, j'ai pris un bus pour l'Allemagne, mais je me suis fait arrêter à la frontière. J'avais jeté mon passeport en Ukraine et j'ai donc été enfermé 90 jours dans un centre de rétention à Poznan comme clandestin. C'était à la fin de l'été 2003. Ça a été très dur. Il n'y avait ni Russes, ni Géorgiens. Il n'y avait que des Chinois et des Pakistanais. Aucune communication possible. 3 mois plus tard, on m'a relâché. J'ai passé la frontière tchèque la nuit, toujours seul, sans carte. Il faisait très froid, il y avait beaucoup de neige, j'avais faim et j'avais peur de la police, de la douane et aussi des voitures qui passaient et qui éclairaient la nuit avec leurs phares. J'ai pris un bus pour Prague où 2 amis m'attendaient pour partir en Autriche. Nous n'avions plus d'argent, alors nous avons marché, toujours de nuit. En Autriche, un ami nous a hébergés. Il nous a donné un contact à Quimper qui nous a envoyé de l'argent pour notre voyage jusqu'en France. C'était en 2004. Nous sommes passés par l'Italie, mais cette fois-ci en train. Nous sommes arrivés à Quimper début mai. Content ! Nous avons rempli un dossier pour obtenir un permis de travail. Il n'y a pas eu de difficulté pour trouver du boulot. J'ai tout de suite bossé dans l'agroalimentaire à la Coperle, puis Kerméné et en 2008 à la Socopa à Guingamp. Quand j'habite à Quimper, je suis passé demander dans les salles de sport s'il y avait possibilité de faire de la lutte, mais en France, c'est très peu pratiqué. C'est tout pour le judo. En Bretagne, il y a la lutte bretonne. Mais il faut accrocher la veste de l'adversaire, comme judo. La lutte, c'est le contact direct de la peau. Maintenant, j'ai plus de 35 ans, mes muscles sont moins souples et mes articulations plus raides. Ici, la neige me manque beaucoup. Actuellement, il neige en Géorgie et il fait moins 20 degrés. L'été, il fait 40. J'y retourne tous les ans pour voir ma mère. Je lui envoie de l'argent tous les mois. Je suis heureux d'habiter en Bretagne. C'est beau.
Oui, et en fait, il raconte ça, mais il a été incarcéré. Pourquoi ? C'était pas dans le...
Il raconte jamais pour quelles raisons ils sont incarcérés.
D'accord.
En fait, je pense que la volonté de Gildas Chassebeuf, ça peut être de raconter les raisons pour lesquelles les gens étaient enfermés, mais le souvenir qui les relie à la vie d'avant. Donc, on le voit, il y a des dessins à l'intérieur. Il anime des ateliers avec les détenus. Ça a été fait, donc au départ il est venu faire un atelier, puis le directeur lui a demandé, il lui a dit, est-ce que vous voudriez faire cet atelier? Ben, il a dit ouais, allez, ok.
Oui, alors il y a aussi une règle de base pour les intervenants en milieu pénitentiaire, c'est systématiquement on ne veut pas savoir pour quelle raison est-ce qu'un détenu est détenu. Tout simplement pour qu'il y ait une liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir de jugement ni rien. La personne, d'accord, elle est détenue, elle a été jugée, elle a été condamnée. Ok, ça c'est un élément de sa vie, mais ce n'est pas l'élément essentiel.
D'accord.
Donc les enseignants qui interviennent en milieu pénitentiaire, les personnes qui vont faire, par exemple, qui vont rencontrer les détenus pour leur permettre une insertion, des gens qui travaillent à Pôle emploi ou autre... C'est une règle de base de ne pas s'immiscer et même de refuser quand le détenu, parce que certains veulent jouer là-dessus, c'est de redire « mais non, ça c'est pas, ça me regarde pas, ce que vous avez fait ne me regarde pas, pourquoi vous êtes ici ne me regarde pas, moi je suis là pour telle ou telle mission, point. Et vous, ce que vous avez fait, c'est pas que je m'en fiche, mais ça ne me regarde pas. »
Alors, ce qu'il écrit, vous voyez, pardon, vous voulez dire quelque chose?
Non, j'étais heureux d'avoir cette information. Ouais.
Et, alors, il écrit Gildas Chassebeuf, justement, pour répondre un peu à ce que vous disiez, Philippe Subercase. Alors, vous voyez, il dessine une porte de prison en rouge qui est absolument magnifique. Alors, ce n'est pas la porte de prison qui est magnifique, c'est le dessin qu'il en fait.
Oui, oui.
C'est-à-dire que ce qui est glauque, il en fait quelque chose de beau dans cet ouvrage. Et il écrit donc, dans l'avant-propos, en 2016, à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, j'ai réalisé une vingtaine de peintures murales retranscrivant des souvenirs de détenus illustrés par eux-mêmes lors d'une semaine atelier dessin animé par ma pomme. Suite à l'accueil très positif de cette expérience, Cyril Quentin, à l'initiative de ma première intervention et l'association 212, m'ont demandé de monter un second projet. Le souvenir s'imposa à nouveau comme thème central, mais avec un traitement différent. J'ai collecté la parole des femmes et des hommes qui gravitent au cœur du bâtiment, détenus, surveillantes et surveillants, personnel médical et administratif, etc., pour la traduire sous forme de carnet illustré. À travers ces mots dévoilés, se dégage en partie le portrait sensible d'une institution souffrant d'une image terne et sombre. Il ne s'agit donc que d'une vision parcellaire du milieu carcéral et aucunement d'un état général des lieux. Mais moi, ce que je retiens, c'est de dresser le portrait sensible d'une institution souffrant d'une image terne et sombre. Vous m'auriez dit, Philippe, est-ce que vous allez acheter un livre sur les prisons? Je vous aurais dit non.
Non, ben oui. Oui.
Voyez, parce que je vous aurais dit, je ne mesure pas forcément l'intérêt. Eh bien, quand on tombe sur Souvenir en cavale, carnet de rencontre à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, la boîte à bulles, on s'y arrête. Et je me suis dit, bah allez, il faut le présenter à présence, parce que vous voyez, l'intérêt de notre émission, c'est que ce livre, Philippe Subercase et Diego Arrabal, vous le trouverez nulle part, hein, c'est-à-dire vous n'allez pas en entendre parler dans le monde des livres, vous n'allez pas en entendre parler dans l'émission littéraire donc, qu'il y a chaque semaine donc, à la télé. Ce n'est pas un roman graphique dont vous allez, que vous allez voir. Et je trouve que l'ADN, nous, de présence, c'est de parler de ceux dont les autres ne parlent pas, mais qui présentent un réel intérêt.
C'est ça un peu l'ADN de cette chronique. Hein.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà, moi je vous le recommande vraiment. Gildas Chasseboeuf, Souvenir en cavale, carnet de rencontre à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, la boîte à bulles. Vous me demandiez la semaine dernière, Philippe Subercase, vous nous demandiez à Diego Arrabal et moi-même, est-ce que ça pourrait être un beau cadeau ? Eh bien oui.
Tout à fait.
Même si c'est un livre qui parle d'une maison d'arrêt, où on pourrait dire, ah ouais, mais c'est. Non, non, pas du tout. Le livre n'est pas glauque.
Non, au contraire, oui. Les histoires que vous nous avez lues sont chouettes, ouais.
Elles sont chouettes, elles parlent du monde, elles parlent des migrants, elles parlent de migrants, de gens simples, de gens qui par moment ont travaillé, vous voyez, pour l'un en Guyane, pour l'autre en Amérique du Sud, le lien qu'ils font entre les deux. Ça a du sens. Moi, je trouve que, voilà, et le sens de cette émission littéraire, ben voilà, c'est de parler de romans graphiques comme cela. Moi, c'est un régal. C'est un cadeau que je me suis auto-offert.
Eh ben, écoutez,
et je n'ai aucun regret d'avoir fait.
Faites-vous plaisir.
Exactement. Exactement.
Entre les îles et les prisons, voilà, qui conclut cette chronique.
Voilà, toujours cette petite notion, moi, il y a d'enfermement, parce que l'île, il y a quand même un enfermement pour certaines personnes. Mais voilà. Et une île que je vous recommande d'ailleurs, que j'ai visitée, c'est l'île Dieu, qui est au large de Noirmoutier. Mmh. C'est une île vraiment où on a un sentiment d'isolement. Et pour la petite histoire, c'est là où est enterré, où a fini ces derniers jours, le maréchal Pétain.
D'accord.
Voilà, c'est là que De Gaulle, le Gracian, l'a exilé. Et c'est là où il a fini ses derniers jours. Il y a une plaque d'ailleurs commémorative pour la maison. Et il y a sa tombe qui est également donc, sur l'île Dieu. Mais l'île en elle-même est absolument magnifique, quoi. Et il y a le GR80 qui en fait le tour, qui fait à peu près 30 bornes. Et ça ressemble à l'Écosse quand on y va. Voilà. D'accord. Donc je vous recommande vraiment cette île. Je terminerai là-dessus, sur ces quelques mots.
Eh bien, bravo.
je vous cloue le bec là, Philippe Subercase. Vous avez un silence.
Je regardais, je pensais que Diego allait nous parler d'une île, mais non.
Non, non.
Non, non, pas du tout.
Ah, non, bon, ben là... Son île, c'est ça. Oui. C'est ça dulcinée, vous le savez, Philippe Subercase. C'est.
Voilà. Eh bien, écoutez, on va le laisser repartir dans son île, alors, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Allez, merci, à la semaine prochaine, tous les deux. Au revoir.